Chapitre 2. L'instinctive et presque involontaire police des salons, celle qui exerce sur un coin de canapé, au hasard du coup d'œil, durant une soirée, des indifférents tels qu'un Miro, une Gabrielle de Candale, une Louise de la Croix-Firmin, à ses surprenantes intuitions. Rien qu'à regarder autour d'eux et en mettant ensemble leurs malignes hypothèses, le peintre et ses deux amis avaient à peu près démêlé les données d'un petit drame sentimental qui se jouait réellement entre la coquette Clémentine, l'obscur et passionné Videville et le naïf Edmond de Bonnivet. C'était bien vrai que la comtesse s'était prise d'une fantaisie romanesque pour ce délicieux jeune homme, bien vrai que Videville, son amant de 3 années, l'avait menacé, si elle essayait d'aller plus loin, d'apprendre au petit Bonnivet leur liaison, en communiquant à ce dernier toutes ses lettres, et bien vrai enfin que la perspective de cet abominable chantage moral terrorisait Madame de Miossens, amoureuse cette fois, comme elle ne l'avait jamais été, d'un de ces amours de la 35e année, auquel les femmes les plus galantes apportent une âme neuve, une virginité d'émotion inentamée. Et alors, le pire supplice pour elle, c'est la réapparition d'un passé souvent bien récent, mais qu'elle sente si passé. Jusque-là, le peintre, avec son étonnante sagacité de vieux routier parisien qui a fait la fortune de son art à travers des influences féminines, adroitement captées, y avait vu singulièrement juste. Mais pour imaginer avec certitude le rôle qu'un politicien professionnel jouait dans une pareille intrigue, il eût fallu savoir quel souvenir lointain de jeunesse Clémentine de Miossens représentait pour Favanne, et sans cette connaissance, même d'entendre les paroles échangées tout bas entre la comtesse et lui n'eût servi de rien. Elles eussent été inintelligibles jusqu'à en paraître invraisemblables. Quand il s'était approché d'elle, il avait prononcé textuellement, après les premières formules de politesse, la phrase suivante. « Voulez-vous, madame, me permettre de profiter de ces 2 minutes où nous sommes seuls pour vous parler très en dehors de l'étiquette de votre monde? Vous ferez d'ailleurs de mon offre tel usage qu'il vous plaira. »« Je ne vous comprends pas du tout, monsieur, » avait répondu madame de Miossens, « mais je vous écoute. » avait-elle ajouté, en coulant un regard vers Videville et en constatant que le guetteur observait ce nouvel entretien de ses mêmes perçantes et sombres prunelles. Elle n'eût pas été la femme féline et rusée que révélait son visage aux traits ténus et son buste aux lignes souples si elle n'avait pas saisi cette occasion inattendue d'égarer un peu la jalousie de l'amant avec qui elle voulait rompre. Et puis, si Favanne se permettait de s'adresser à elle en des termes à ce point étrange, c'est qu'il y avait eu jadis, un jadis vraiment perdu, celui-là, dans la nuit des temps, un secret entre eux, bien innocent, par comparaison avec les aventures traversées aujourd'hui par la comtesse, mais un secret pourtant et d'ordre romanesque. Et, même envahi par son nouveau caprice pour ce ravissant Edmond de Bonnivet, même préoccupé jusqu'à la terreur du moyen d'échapper à la vengeance du jaloux Videville, Clémentine n'entendit pas la phrase de Favanne sans un vif mouvement de curiosité. Qu'allait lui dire cet homme singulier qu'elle avait connu 16 ans auparavant, secrétaire de son père, avec qui elle avait été coquette cruellement, dont elle s'était fait aimer, qu'elle avait perdu de vue lors de son mariage et retrouvé, voilà un mois, par le plus inattendu des hasards, chez Madame du Gouldray. À peine s'il l'avait saluée, à chacune de leurs 3 rencontres dans ce salon, et tout d'un coup, elle le voyait devant elle, aussi frémissant, aussi ému qu'autrefois, dans des circonstances auxquelles il faisait maintenant allusion. « Ce sera court, madame, » avait-il repris d'une voix très basse. « Je ne suis pas grand-chose. Je suis pourtant quelque chose de plus qu'à l'époque où j'ai eu l'honneur de vous connaître. » J'ai cru remarquer, je peux m'être trompé et je n'ai pas le droit de vous demander des confidences, je vous dois même des excuses pour mon indiscrétion. J'ai cru remarquer tout à l'heure chez vous la trace d'un souci, d'un trouble, d'une inquiétude, comme si vous appréhendiez quelque danger. Eh bien, je voulais vous dire ceci qui est très simple. Souvenez-vous que si jamais vous avez besoin de quelqu'un à qui vous fiez complètement, absolument, je suis à votre service. C'est au moment où le politicien formulait cette offre extraordinaire que Madame de Miossens l'avait regardée en face, jusqu'au fond du cœur, si l'on peut dire. Une seconde, elle avait hésité. Ensuite, avec un demi-sourire de coquetterie ou d'ironie, de triomphe ou d'indulgence, qui sait, elle avait secoué sa jolie tête pour répondre « Vous êtes donc toujours resté un personnage de roman, Monsieur Favanne, malgré cette desséchante politique ?» Et moi qui croyais que vous m'aviez oublié. Car, sans reproche, vous n'êtes pas venu souvent me parler depuis que nous nous sommes de nouveau rencontrés ici. Eh bien, ajouta-t-elle, je ne sais pas trop où vous avez pu vous faire l'idée que je courais quelque danger. Je n'en cours aucun, je vous assure, aucun, mais je me souviendrai de votre démarche et je vous en veux si peu que je vous en dis merci. Et puis... Et son sourire s'était fait plus engageant encore. Quand on n'a pas oublié ses vieux amis, on est sans excuse de ne pas venir les voir, surtout lorsqu'ils n'ont pas changé de maison. Madame du Coudray était arrivée près des deux interlocuteurs, juste à temps pour épargner à Favanne l'embarras de répondre à cette directe invitation. Il faut croire que la légère et séduisante attitude par laquelle la jeune femme accueillait son extravagante démarche le troublait profondément, car à peine eut-il assez de présence d'esprit pour soutenir la conversation avec la nouvelle venue, et cette dernière disait à la comtesse Clémentine, quelques minutes plus tard, le plus sérieusement du monde, en montrant du bout de son éventail le politicien qui avait pris congé d'elle, « Il va y avoir un remaniement dans le ministère. Je le parierai, rien qu'à voir combien celui-ci est préoccupé. Ces gens-là, voyez-vous, ma petite, ne sont pas vraiment forts. On lit dans leur jeu à livre ouvert. L'idée d'un portefeuille les affole. Nos amis avaient une autre tenue quand ils étaient aux affaires, avouons-le. » Tandis que la perspicace marquise proférait cet aphorisme dont sa futée confidente ne put s'empêcher de sourire, le soi-disant ambitieux n'avait qu'une pensée, être seul, s'en aller de cette maison, et penser. Il lui fallait, après le coup de folie qu'il avait précipité vers Madame de Miossens, se reprendre, réaliser les mots extraordinaires qu'il avait proférés comme en un rêve, dans la demi-inconscience de la plus irrésistible impulsion, réaliser aussi les quelques phrases que la jeune femme lui avait répondues, savoir avec lui-même où il en était, après un entretien si rapide, mais qu'il avait du coup rejeté dans un domaine de sensations auquel il eût juré un mois auparavant ne plus jamais devoir revenir. À cet instant, où toute causerie lui eût été physiquement insoutenable, il eut la chance de traverser les salons sans être abordé, de ne rencontrer aucun fâcheux dans l'antichambre parmi les invités qui attendaient leur pardessus pour s'en aller comme lui. Enfin, il se trouva sur le trottoir de la rue de l'Université, devant la façade éclairée de l'hôtel du Coudray, sûr, bien sûr, que personne ne lui proposerait de le reconduire. Du faubourg Saint-Germain à Neuilly, où il habitait, il y avait la moitié de Paris à franchir. Il faisait une de ces nuits très claires et très froides de la fin mars, où une reprise d'hiver flotte dans l'atmosphère. La neige fut tombée à gros flocons, la boue eut englué les pavés de la chaussée, que Favanne n'en serait pas moins rentré chez lui à pied, afin de dompter par la marche l'énervement qui le gagnait, et pour essayer d'y voir clair dans son propre cœur. Dieu, que sa rêverie l'emportait loin du Parlement, tandis qu'il longeait d'un pas rapide les murs du Palais Bourbon, ceux du Palais de la Présidence et du ministère des Affaires étrangères. Qu'il se souciait peu des remaniements de cabinet et du portefeuille de l'intérieur, son portefeuille, tandis qu'il cheminait sous les arbres des Champs-Élysées presque déserts, à quelques pas à peine de la place Beauvau. Comme les combinaisons des couloirs, les intrigues de groupe, les projets de loi, les commissions s'abolissaient, s'effaçaient de sa mémoire pour laisser place aux souvenirs qui s'étaient soudain réveillés en lui avec une telle force quand il avait observé, pour la troisième fois ce soir, la décomposition de la physionomie de Madame de Miossens à l'approche du même personnage. Il avait senti, il avait vu la terreur de la jeune femme en présence de Videville, l'angoisse de cet adorable visage par lequel il avait tant souffert, mais qu'il avait tant aimé. Et il était allé parler à Clémentine, comme il se fût jeté à l'eau pour la sauver s'il l'avait vue se noyer, d'un mouvement aussi spontané, aussi peu réfléchi. C'était déraisonnable, illogique, absurde, insensé. C'était fait. Elle lui avait dit de venir chez elle. À un degré quelconque, elle allait donc rentrer dans sa vie. Et pourtant, quel rôle y avait-elle joué une première fois, voilà 16 années. 16 années. Et il semblait à Michel Favanne que sa première rencontre avec Clémentine de Révigny, c'était le nom de jeune fille de Madame de Miossens, datait d'hier. Il se revoyait en imagination, jeune lui aussi, vêtu de ses pauvres vêtements d'étudiant gêné et faisant à pied chaque jour, pendant 2 mois d'un rude hiver, le trajet de la rue de la Vieille Estrapade, où il habitait alors, à la rue du Faubourg Saint-Honoré, où Clémentine demeurait avec son père, l'ancien ministre plénipotentiaire. Un bien simple hasard l'avait introduit dans cet intérieur. M. de Révigny était le petit-fils de cet éloquent et malheureux président de Révigny, l'ami des Lamettes, des Montlosier, des Lafayette, de tous ces chimériques révolutionnaires qui espérèrent, au lendemain de 89, endiguer le flot furieux de la démocratie montante dans une monarchie parlementaire. Durant la longue détention que le président eut à subir sous la terreur avant d'aller à l'échafaud, le 7 Thermidor, cet homme de talent et de cœur, mais demeuré, comme la plupart de ses complices en illusion constitutionnelle, rebelle à l'enseignement des faits, avait écrit ses mémoires. On sait qu'ils ont paru, avec éclat, en 1881. On ignore que l'établissement du texte, le classement des notes, la biographie anonyme qui les précède, sont presque entièrement l'œuvre de Michel Favanne. M. de Révigny, désireux de hâter une publication longtemps reculée pour des raisons de convenance et de carrière, avait demandé à un membre de l'Institut, un jeune homme laborieux et instruit, qui menât à bien cette tâche. Le membre de l'Institut s'était adressé à un professeur de la faculté de droit. Ce professeur avait pensé à Michel, et voilà comment ce dernier s'était trouvé servir de secrétaire intime pendant ces 2 mois pour la plus délicate des besognes au père de Clémentine. Le savant juriste, qui avait procuré à l'étudiant pauvre ce lucratif emploi de ses matinées, n'avait pas pu lui donner des notes précises sur la situation actuelle de la famille Révigny. Il l'avait averti pourtant qu'un douloureux scandale avait forcé le diplomate à quitter sa carrière. Madame de Révigny, polonaise d'origine et de la grande famille des Gorka, s'était laissée enlever par un collègue de son mari, alors au service dans une petite cour d'Allemagne. La vérité était plus lamentable encore. Ce drame conjugal avait eu le plus funeste retentissement sur les relations de l'époux trahi avec Clémentine, l'unique enfant de ce misérable mariage. Cette fille, par une ressemblance chaque jour plus saisissante de caractère et de figure avec sa mère, représentait trop cruellement l'absente au mari outragé. Celui-ci en était venu, à l'époque où Favanne commençait de travailler avec lui, à voir sa femme dans cette fille et à éprouver pour l'innocente la plus passionnée des aversions au souvenir de la coupable. C'est ainsi, éparée de toutes les grâces d'une martyre domestique, attendrissante victime de la faute commise par une autre, que Clémentine était apparue pour la première fois au jeune homme. Il y avait 8 jours qu'il venait dans le grand hôtel, où les portes et les fenêtres closes des vastes salons, les meubles houssés, les tapisseries voilées, trahissaient un triste abandon. Le travail de révision du manuscrit s'était prolongé ce matin-là plus que d'habitude, et M. de Révigny avait retenu l'étudiant à déjeuner. 4 couverts étaient mis sur la table de la salle à manger. L'ancien diplomate avait fait signe à Favanne de s'asseoir en lui disant « Ma fille a pris la mauvaise habitude d'être toujours en retard. Je l'en corrige en ne l'attendant jamais. Quand il y a un étranger, elle comprend mieux la leçon. » Et presque aussitôt, Clémentine était entrée, suivie d'une gouvernante dont l'attitude effacée devait plus tard s'expliquer pour Michel de la manière la plus naturelle et la plus mélancolique, étant donné qu'elle était la gardienne d'une jeune fille sans mère. Sur le moment, il n'eut d'attention que pour Mademoiselle de Révigny. Celle-ci l'aperçut. elle rencontra le regard de son père qui éclatait de méchanceté. La pendule marquait à peine 10 minutes, au-delà de l'heure fixée pour le déjeuner. La jeune fille rougit jusqu'à la racine de ses beaux cheveux d'un blond doré qu'elle portait divisé sur son front en 2 bandeaux, sans une frisure. Ainsi encadré, ou plutôt nimbé, l'ovale allongé de son visage semblait plus délicat encore et son expression, qu'elle devait garder toute sa vie, de timidité souffrante et passionnée, s'harmonisait si bien avec cette délicatesse de trait qu'il était impossible de ne pas s'intéresser à cette physionomie d'une sensibilité, semblait-il, si vive et si fragile. Favane croyait l'entendre qui s'excusait de son retard avec une voix douce, comme étouffée par l'émotion, et il retrouvait le serment qui lui avait étreint le cœur dès 7 minutes, lorsque le père avait répondu à cette craintive explication par une phrase bien simple, mais si dure à prononcer devant un inconnu, si mortifiante à écouter pour une fille de 18 ans qui occupait la place de la maîtresse de la maison. « Vous vous lasserez d'être inexacte, ma chère enfant, avant que je ne me lasse de vous en punir. Vous serez privée de monter à cheval demain matin. » Quelle était nette et précise cette scène de famille dans la mémoire de Favane, si nette qu'il entendait de nouveau les bruits dont s'accompagnait ce commencement de déjeuner, le glissement des pas du maître d'hôtel sur le tapis, le va-et-vient du balancier dans le cartel appendu au mur, le cliquetis des fourchettes sur la porcelaine, le versement du vin dans les verres, la voix sèche de M. de Révigny parlant seul, et par instant, une réponse de la jeune fille, prononcée de ce même accent assourdi où passait la palpitation de son pauvre cœur. Il le comprenait aujourd'hui, dès cette première seconde, il l'avait aimé, d'un sentiment d'autant plus profond, d'autant plus vrai qu'il s'ignorait lui-même. Jusqu'à cette époque, l'ardeur du travail, l'âpreté de l'ambition, le froid de la misère, une naturelle sauvagerie, avaient maintenu le futur politicien hors de toute influence féminine. Fanatique d'action, nourrissant des rêves de lutte civique, comme d'autres nourrissent des rêves d'émotions romanesques, il avait fui les faciles et peu délicates aventures du quartier latin et, à 25 ans, il n'avait jamais eu de maîtresse. Toutes les énergies aimantes s'étaient accumulées dans cette âme de travailleur abstrait et un peu farouche pour éclater à la fois. Comment ne se fussent-elles pas éveillées de rencontrer cette Clémentine, belle de la beauté délicatement étrange qu'elle tenait de sa mère, avec un je ne sais quoi de morbide dans la grâce, séduction suprême des belles polonaises, cette Clémentine isolée et malheureuse, injustement tyrannisée et n'ayant personne pour la protéger? Cette Clémentine, il faut tout dire, aussi coquette d'instinct qu'avait dû l'être cette mère dont elle était le vivant portrait, sans autre surveillance que celle d'une gouvernante qu'elle pouvait d'un mot faire renvoyer, cette Clémentine enfin qui possédait au suprême degré la décevante souplesse qui fait le charme et le danger de la femme slave, la puissance de sincérité momentanée, la spontanéité de simulation, le goût de la passion imaginative, manège d'autant plus irrésistible que la femme qui le joue s'y prend elle-même à demi. Et ce qui devait arriver était arrivé. Michel Favane avait franchi le seuil de l'hôtel Révigny pour la première fois vers le commencement de décembre. En février, la jeune fille et lui s'étaient dit qu'ils s'aimaient. Certes, le politicien qui se remémorait, un par un, les épisodes de cet innocent roman, durant cette rentrée solitaire, avait connu, depuis lors, les plus fortes et les plus âcres des émotions humaines, celles du pouvoir convoité et possédé, perdu et reconquis. Rien n'avait effacé, dans ce cœur d'homme d'action, l'empreinte de la lointaine et courte époque où il avait été simplement un homme de rêve et de tendresse. Comme il en gardait les images en lui, présentes et vives, et malgré l'amertume de la déception, que la saveur en restait attirante dans sa tristesse. C'est que jamais, ni à son premier discours à la tribune, ni à sa première arrivée au ministère, il n'avait éprouvé une émotion comparable en ampleur et en intensité à celle qu'il avait saisie quand, Pauvre diable de scribe, si humble, si chétif, il s'était aperçu qu'il intéressait d'un intérêt passionné cette jeune fille si belle, si noble, si riche, promise à un destin si différent de son destin à lui. Ça avait été d'abord, quand il restait à déjeuner, 3 ou 4 fois par semaine bientôt, à cause du pressant travail, ça avait été une suite de longs regards d'elle, surprise au passage, et auxquels il n'osait pas croire. Mais oui, quand il parlait, Clémentine était réellement, physiquement, suspendue à sa parole. Ce fut ensuite une série de rencontres avec elle, dans l'escalier ou dans le couloir, comme il gagnait l'espèce de fumoir bibliothèque où il travaillait, si fréquente qu'elle ne pouvait être involontaire. Ce fut enfin l'entrée de la jeune fille dans la bibliothèque même, tandis qu'il s'y trouvait seul, une fois sous le prétexte de chercher son père, une autre fois pour prendre un volume, puis pour le consulter sur une lecture, l'orthographe d'un mot, une lettre à écrire. Et à chacune de ces visites, le tête-à-tête s'était prolongé davantage. Ils avaient pris l'habitude, peu à peu, de causer ensemble, d'une causerie indifférente, puis plus intime et coupée de silence, comme s'ils avaient peur d'eux-mêmes. Les sourires de Clémentine, l'incertain de son accent, le battement ému de ses paupières sur ses yeux, une façon qu'elle avait de les cligner en interrogeant, avec quelle idolâtrie Favane avait recueilli ces signes d'une lutte intérieure qui sauvait l'audace de ces demi-rendez-vous par un charme de réserve et de pudeur. Il n'avait osé que bien tard, un matin qu'ils étaient seuls ainsi, hasarder auprès de cette enfant, la plus discrète, la plus modeste des caresses, lui prendre la main. Il sentait encore, après 16 ans, le frémissement de ses petits doigts fiévreux entre les siens. Il lui avait dit « C'est donc vrai que vous avez de l'amitié pour moi ?» Elle l'avait regardé de ses yeux bleus où brillait une lumière. Elle avait répondu « Oui, beaucoup. » Rien que de l'amitié, avait-il demandé encore. « Je ne sais pas, » avait-elle balbutié en rougissant. « Si vous m'aimez un peu, » avait-il osé continuer, « dites-le-moi, je vous aime tant. » « Ah, laissez-moi, » avait-elle répliqué toute tremblante. « Laissez-moi, c'est si mal, si mal. Je ne peux pas, je ne veux pas vous parler. Ah, laissez-moi. » Et la petite main s'était retirée, frémissante et farouche. Clémentine s'était levée pour s'échapper, sans qu'il eût la force ni de la retenir, ni d'ajouter un seul mot. Pour un jeune homme pauvre, pur et fier, qui pressente un bel avenir, il y a dans le fait d'aimer une jeune fille très au-dessus de lui socialement, un principe inouï d'exaltation. La différence de fortune, qui lui serait inacceptable s'il n'aimait pas, reste douloureuse à son orgueil. Mais il y a aussi la conscience de son talent, et il en ramasse, il en surexcite en lui-même les meilleures énergies, avec l'idée qu'il aura, dans quelques années du plus noble effort, conquis, à force d'illustration, celle qu'il aime et qu'il attendra. Quelles heures alors d'une espérance illimitée, où l'amour et l'ambition, ses sœurs rivales, s'unissent et s'avivent dans une miraculeuse harmonie. Cette folle mais si virile ivresse d'une surnaturelle confiance en soi, Michel Favane se souvenait de l'avoir goûtée à plein cœur en sortant de l'hôtel de Révigny après l'échange de ces simples phrases qui équivalaient pour lui au plus tendre, au plus complet aveu. Ce « je ne sais pas », ce « laissez-moi », cette peur pudique devant sa déclaration, n'était-ce pas autant de façon qu'elle avait eue de lui dire « et moi aussi je vous aime » Et il se revoyait dans sa chambre dénudée, qui illuminait la splendeur de cette espérance, assise à sa table de travail. Là, parmi les larmes qui brouillaient ses mots sur le papier, il avait écrit à Clémentine une lettre de fièvre et d'extase, où il lui demandait qu'elle l'acceptât comme fiancée, où il lui promettait, si elle lui engageait sa foi, d'être avant 5 ans, un des hommes marquants de son pays, par la parole et par la plume, et naïvement, héroïquement, il l'initiait au secret de ses travaux, de ses convictions, de ses volontés. Oui, héroïques et naïves pages, qui eussent paru insensés dans leur programme de conquête de la gloire à tout homme connaissant la vie. Ce chimérique programme, Michel l'avait pourtant réalisé, pour lui seul, puisqu'il était devenu un orateur fameux, un publiciste retentissant, un chef de parti considérable, et celle au pied de qui son jeune courage rêvé jadis de déposer le trésor des lauriers conquis était, elle, la femme d'un autre. À constater cette ironie de sa destinée, au cours de cette méditation rétrospective, l'homme d'État ne put s'empêcher de rire tout haut, d'un mauvais rire. Une fois de plus, il venait d'éprouver cette impression qui saisit trop souvent les prétendus heureux de ce monde quand ils reviennent en arrière, celle de l'avortement dans la réussite, de l'aquabon dans le triomphe. Et d'ailleurs, dès le lendemain de ce jour du premier aveu, quand il avait remis cette étrange lettre à Clémentine, comment n'avait-il pas deviné qu'il ne pouvait pas, qu'il ne devait pas, faire fond sur cette fille coquette d'une mère coquette, âme légère et curieuse, incapable des douloureuses secousses de la passion vraie. Elle avait paru dans la bibliothèque avec l'éternel frémissement de son sourire et de ses yeux qui donnait l'idée d'une sensibilité si vivante, si profonde. Il n'avait plus osé cette fois reprendre sa déclaration de la veille. Mais il lui avait dit, sans presque oser la regarder, « Je vous ai écrit. » Elle lui avait répondu, « Donnez-moi cette lettre, je veux cette lettre !» Et elle lui avait pris l'enveloppe des mains avec une impatience sans tendresse dont il était demeuré, sur le moment même, déconcerté. L'angoisse d'attendre la réponse avait été plus forte que cette demi-désillusion. Cette réponse n'était pas venue. Un jour, puis deux, puis trois, avaient passé sans que Clémentine descendît et sans que M. de Révigny pria Favanne de rester pour le déjeuner. Y avait-il entre ces deux fêtes une simple coïncidence? La jeune fille, saisie de remords, avait-elle montré la lettre à son père? Ou bien celui-ci avait-il, sur la dénonciation d'un domestique, conçu quelques soupçons? L'amoureux avait passé ses trois journées dans une angoisse égale à sa joie enthousiaste de l'autre matin. Le quatrième jour, Clémentine était entrée dans la bibliothèque, toute nerveuse. « Je suis espionnée, lui avait-elle dit, mais j'ai voulu vous voir. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous avez écrit ?»« Si je le pense, avait-il balbutié. Eh bien, alors ?» Elle s'était arrêtée au milieu de sa réponse, comme si de formuler ce solennel engagement l'épouvantait. Puis elle avait repris, comme avec délice, « Vous m'aimez? Vous m'aimez? Vous me l'avez dit l'autre jour. Répétez-moi que vous m'aimez. Je veux l'entendre. Dites, je vous aime. » Le petit jardin d'hiver, derrière la haute fenêtre, avec ses branches dépouillées et son coin de ciel pâle, faisait un fond si doux de mélancolie au visage délicieux de celle qui parlait ainsi. Elle ne s'enfuyait plus maintenant. Elle ne lui demandait pas de la laisser. Elle avait marché vers le jeune homme. Il revoyait encore ses pieds fins sur le tapis clair et, autour de cette silhouette adorable de grâce frissonnante, le sévère décor de cette chambre garnie de livres, symbole de sa vie austère, à lui, où le bonheur venait d'apparaître. Elle portait une robe d'un bleu très sombre, avec un plissé en mousseline de soie blanche, autour de son cou et de ses poignets, qui, en isolant, en encadrant son visage et ses mains, donnait plus de délicatesse encore à ses traits, plus de finesse à ses doigts. Favanne se rappelait les avoir pris de nouveau, ses doigts graciles, et qu'il avait attiré la jeune fille sur son cœur, et, de ses lèvres, il avait effleuré les beaux cheveux blonds penchés vers lui, en répétant « Je vous aime !»« Et moi aussi, je vous aime !» avait-elle répondu en blottissant dans les bras de Michel son corps fragile, dont il avait senti contre lui la souplesse, et, follement, des cheveux, ses lèvres étaient descendues sur les yeux. Ah, ce premier et dernier baiser de ses furtives fiançailles, la brûlure n'en était pas encore cicatrisée. Aujourd'hui, rien qu'à s'en souvenir, il éprouvait à nouveau le double frisson qu'il avait saisi coup sur coup, l'un d'une extase presque folle, à sentir que la blonde tête ne se retirait pas de lui, l'autre de terreur. Dans cette minute même, la porte s'était ouverte et avait donné passage à M. de Révigny lui-même.